écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le sport pendant le mois de Ramadan est possible, mais sous certaines conditions, selon un nutritionniste, il faut attendre après la prière et être bien hydraté pour s'adonner aux exercices physiques, des précisions dans ce journal. La consommation des criquets capturés avec des pesticides peut s'avérer dangereuse, un entomologiste explique dans cette édition. En partie magazine, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur nous éclaire sur le processus d'installation des élus locaux qui a démarré hier à Niamey. Hawa Momana au micro. Au total, 8327 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 au Niger, sur un total de 43125 personnes identifiées comme cibles prioritaires à la date du 18 avril dernier, selon Abache Rana, secrétaire général du ministère de la Santé publique, rapporte le site Niamey et les deux jours. Pour rappel, la campagne de vaccination qui se poursuit dans la région de Niamey a été lancée le 29 mars passé, précise la même source. Pratiquer l'itikaf consiste à se retirer complètement de ses activités quotidiennes pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pendant cette période, le pratiquant doit se concentrer uniquement dans l'adoration de Dieu à travers les zikr et la lecture du Saint-Coran. Le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, joint au téléphone par Hawa Ousmane, donne des explications.
L'itikaf consiste à quitter les activités de la vie quotidienne pour se rendre dans une mosquée centrale comme la mosquée de Splendredi, dans l'objectif de se vaquer à l'adoration exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se concentre dans la multiplication des bonnes œuvres qui sont la lecture du Saint-Coran ou le zikr de façon générale, la prière surrogatoire, enseigner ou recevoir un enseignement. Donc l'objectif est de chercher à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui plaire. Donc, l'itikaf a des avantages spirituels. L'itikaf débute dès le soir de la 21e nuit du mois béni de Ramadan et ça dure tout le long de la dernière décade.
Pour les jeûneurs qui pratiquent le sport pendant ce mois du Ramadan, selon le nutritionniste, il faut avoir un taux de sucre normal dans le sang et être bien hydraté, mais il faut attendre après la rupture du jeûne pour faire les exercices physiques, précise Dr Harakoy Mohamed, pharmacien nutritionniste. Il est au micro de Rahilatou Soumana.
Sachant que la condition sine qua non pour faire le sport est d'avoir un taux normal de glycémie et un bon équilibre hydrique, à la période du jeûne, la période la plus propice au sport est notamment la période qui vient juste après le coucher du soleil, c'est-à-dire après la rupture du jeûne. Il est conseillé de pratiquer le sport dans des endroits vraiment qui sont frais et aérés pour limiter le phénomène de transpiration et surtout en gardant toujours avec soi quelques carreaux de sucre. Tous ceux qui veulent pratiquer le sport doivent privilégier la consommation, notamment les aliments riches en eau et en sucre, dont les fruits, les jus de fruits, les dattes, car ces aliments vont permettre pratiquement de vite rehausser le taux de glycémie sanguin.
Les criquets sont très appréciés par beaucoup de Nigériens. L'utilisation des pesticides est dans certains cas une méthode de capture de ces insectes riches en protéines, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, selon Dr Madougou Garba, entomologiste. Il explique au micro de Rafika Attaher.
Les criquets qui sont attrapés, par exemple, par un produit que les gens appellent communément pia-pia, il est extrêmement dangereux et il est déjà interdit dans beaucoup de pays dans le monde. Et il circule encore au Niger. Donc, ce criquet qui est bouilli et qui est ramené sur le marché, le pesticide n'a pas le temps de se dégrader dans la nature. Donc, les résidus de pesticides qu'il y a dans ce criquet, celui qui le consomme va avoir d'énormes problèmes de santé. Pour faire la différence, sur le marché, il faut avoir l'œil exercé. Par exemple, tout ce qui est criquet arboricole, qui est tout noir, tout sombre, il y a de fortes chances que ça soit attrapé avec les pesticides. Mais si le criquet n'est pas attrapé avec ces méthodes, la consommation est d'ailleurs conseillée. Des études ont montré que 100 grammes de criquet apportent beaucoup plus à l'organisme que 100 grammes de viande de mouton ou de bœuf. Il y a beaucoup de protéines et quelques vitamines.
Le 26 avril dernier, se sont ouvertes les assises de la chambre criminelle d'Avlit, région d'Agadez. Selon Idi Miko, président du tribunal d'Avlit, 15 dossiers seront jugés, dont 6 affaires de vol, 3 affaires de coups mortels, 3 meurtres, 1 assassinat, 1 cas de viol sur mineur et 1 affaire de traite de personnes.
La dernière session, à titre illustratif, de la cour d'assises d'Arlette remonte en 2018. C'est ainsi que la présente session va hériter de toutes les affaires pendantes devant l'ancienne cour d'assises, et cela va nous conduire à juger une quarantaine d'accusés, dont certains sont en détention depuis 2013. La présente session de la chambre criminelle d'Arlette va s'étaler sur 2 semaines, c'est-à-dire du 26 avril au 8 mai, et porte à son rôle 15 dossiers, dont 6 affaires de vol criminel, 3 affaires de coups mortels, 3 meurtres, un assassinat, un viol sur mineur de moins de 13 ans et une affaire de traite de personnes.
Tes propos recueillis par Ousmane Oumarou. Les 5 centrales syndicales représentatives issues des élections professionnelles de 2019, à savoir la CDTN, la CNT, l'USTN, la CGSL et l'USPT, ont relancé les négociations avec le comité interministériel relatif à leur plateforme revendicative. Après plus d'un an d'exercice, Idrissa Maïga, secrétaire général de la CDTN, estime que des acquis ont été enregistrés, notamment le paiement des incidences financières des fonctionnaires de l'État. Il est interrogé par Adama Dawachi.
Au mois d'octobre 2020, nous avons eu la dernière rencontre de négociation avec le comité interministériel. Beaucoup d'accords qui n'ont pas fait objet d'application ont été appliqués pendant ce temps-là. Par exemple, le paiement des incidences financières. Vous savez que c'est un paiement qui a été arrêté à un moment. Vous savez que notre revendication était des logements sociaux pour tous les travailleurs. Pendant les négociations, la partie gouvernementale et la partie syndicale ont été tombés d'accord que les logements sociaux coûtent cher pour leur construction. Et coûte cher aussi même pour les travailleurs pour payer. C'est à ce temps qu'on a adopté le principe de parcelles clôturées et viabilisées, opération qui a été lancée par le ministre de l'Habitat. Mais compte tenu du changement de gouvernement, la procédure connaît actuellement un ralentissement et nous attendons que le nouveau gouvernement s'installe mieux pour que ce dossier soit réactualisé.
Chaque année, 300 enfants déscolarisés et non scolarisés sont récupérés par la commune de Tagazav, département de Baleyara, dans le cadre de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Selon la superviseure, ces enfants, après 9 mois d'enseignement, sont reversés dans les écoles publiques. Ramatou Hamma explique au micro de Hassan Moumouni.
On a constaté que certains enfants sont scolarisés, mais nombreux d'entre eux quittent aussi les bancs et d'autres n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. C'est pourquoi les Blancs nous ont dotés de ce financement pour faire une scolarisation accélérée pour les enfants qui ont abandonné l'école et ceux qui n'ont jamais été scolarisés pour leur réinsertion en milieu scolaire. Cela concerne les enfants des deux sexes, âgés de 9 à 12 ans. Chaque année, dans la commune de Tagazar, nous préparons 10 classes dans lesquelles nous donnons des cours à ces enfants. Chaque classe, nous prenons 25 à 30 élèves, filles et garçons. On se retrouve souvent avec 300 ou 250 enfants. Après les 9 mois de suivi, on les réinsère dans les écoles publiques pour qu'ils poursuivent leur cursus scolaire. La plus grande difficulté qui entrave nos efforts, c'est la déscolarisation des enfants. À chaque fois, nous attirons l'attention des parents pour leur expliquer l'importance de l'éducation. Car on connaît tous l'importance de la scolarisation pour un pays.
Le département de Mayaï, région de Maradi, est une zone où les agriculteurs connaissent l'importance de la régénération naturelle assistée, RNA. C'est pourquoi cette pratique est utilisée par les agriculteurs dans leurs champs pour accroître le rendement agricole et aussi lutter contre l'avancée du désert. Memouna Bahari, cultivatrice qui vit à Guidandaté dans la commune de Mayaï, donne l'avantage de la RNA. Elle est au micro de Issoufou Cheibou à Mayaï.
Dans la régénération naturelle assistée, on trouve de quoi nourrir la famille. Là où il n'y a pas d'arbres, la terre ne sera pas fertile. Mais s'il y a la végétation, ça garde le sable et ça fertilise les champs pour un bon rendement agricole. Pratiquons la régénération naturelle assistée. Faisons-le très bien. Entretenons bien le Gira sénégalensis. Si elles sont grandes, laissons 4. Si elles sont petites, on laisse au moins 5. Ça aide à garder le sable dans les champs et ça donne encore plus de force aux champs. C'est ce qu'on fait. Si les arbres entretenus grandissent, ça peut être utile au cultivateur et son champ fera un bon rendement. Mais si on ne pratique pas, le rendement du champ va toujours régresser. Le sable ne reste pas, l'engrais non plus. Dès que le vent se lève, il emporte tout sur son passage. Son importance, c'est lors de la saison des cultures. Le vent n'abîmera pas les nouvelles pousses et tu auras ton haricot, ton mil et ton sorgho.
<t'->
Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur. Apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Partie magazine, le processus d'installation des élus locaux issus des élections municipales et régionales du 13 décembre 2020 a débuté hier à Niamey et se poursuit à l'intérieur du pays sous la supervision des représentants de l'État que sont les gouverneurs et les préfets. Quel est le processus d'installation des élus locaux et qui sont les votants? Réponse avec le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Seydou Halidou, des propos recueillis par Mokhtar Amadou.
L'installation du conseil municipal ou régional, ainsi que l'élection du maire, des adjoints, ainsi que du président du conseil régional et des vice-présidents ont lieu lors de la première réunion du conseil municipal ou régional convoquée par le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet ou le gouverneur selon le cas.
Monsieur le SG, quel est le processus d'installation des élus locaux?
La séance d'installation du conseil est ouverte sous la présidence du préfet pour ce qui concerne les communes et du gouverneur pour ce qui concerne les conseils régionaux et les villes à statut particulier. À cet effet, un secrétaire de séance rapporteur est désigné pour la circonstance et à cette occasion, le représentant de l'État donne lecture des résultats des élections locales en appelant les noms des conseillers régionaux ou municipaux élus au niveau des collectivités dans l'ordre du tableau des résultats des opérations électorales tel qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance. Il procède ensuite à la vérification de l'identité de chacun des conseillers élus et des membres de droit, au besoin recourir à une personne assermentée, en l'occurrence un greffier ou un huissier. Ensuite, il établit une liste des membres permanents du conseil de la collectivité territoriale, donc commune ou région, conseillers titulaires et leurs suppléants, en faisant la distinction entre les membres élus ayant voix délibérative et les membres de droit avec voix consultative. Cette liste-là est établie pour toute la durée du mandat. Il déclare enfin les membres du conseil régional ou municipal installé dans leurs fonctions et en dresse procès verbal dont copie est transmise à l'autorité de tutelle. À la fin, il prodigue des conseils pratiques aux nouveaux élus, notamment en leur rappelant les rôles et responsabilités, ainsi de suite. Mais surtout, le gouverneur et le préfet doivent rappeler aux nouveaux élus qu'ils ont l'obligation d'établir en début de mandat un règlement intérieur pour la collectivité qu'ils dirigent.
Qui sont les votants?
Il faut relever tout de suite que seuls les conseillers élus au suffrage universel participent au vote pour l'élection du maire, de ses adjoints, ainsi que du président du conseil régional et du vice-président. Les membres de droit, notamment les députés non élus au conseil, les sultans, les chefs de canton ou de groupement, ainsi que les chefs de village, de tribu ou de quartier ne participent pas au vote.
Et c'est la fin du journal de ce 29 avril 2021. Tout de suite, le forum violence basée sur le genre à l'université Abdoumoumouni de Niamey, cas des étudiantes, présentation Al-Mustapha Bakim Batouri.